Chapitre 2. Comme toujours, l'après-midi, nous traversons les jardins du palais pour monter sur les mules scellées de vieux roses qui nous attendent à la porte de la grande cour. C'est l'heure magique où Fès revêt son voile de mystère. Le soleil est encore haut dans un ciel sans nuages, mais dans les rues étroites et perpendiculaires de Fès el-Bali, sous les voûtes tortueuses percées dans les flancs des palais, le crépuscule descend déjà. Descendant à travers les ruelles, étranglées entre des murs d'une hauteur invraisemblable, derrière lesquels nous entendons gronder les eaux souterraines et nous devinons des fouillis d'orangers et de jasmins. Ça et là, une porte verte rompt la monotonie des murailles, ou bien un couloir voûté nous laisse apercevoir un coin du patio où nous voyons des esclaves accroupis. Puis les murs recommencent, murs de palais maintenant, car nous sommes descendus plus bas que la zone des jardins, immenses façades grises et croulantes se penchant l'une vers l'autre à travers le rétrécissement progressif des ruelles et percées à peine de quelques meurtrières grillées de fer qui sont bouchées de chiffons immondes et de toiles d'araignées. « Gare aux têtes !» crie le conducteur qui nous précède, et nous nous penchons sur les coups de nos montures comme des jockeys sur le home stretch pour ne pas nous cogner contre les poutres pourrissantes qui supportent les étages jetés à travers les rues. « Gare aux têtes » répète-t-il. Et cette fois, c'est l'arc abaissé d'une des portes intérieures de la ville qui nous menace. Ces lourdes portes bardées et cloutées de fer, aux verrous gros comme le bras, qui séparent l'un de l'autre les différents quartiers de Fès, ces portes qui, même maintenant, sont fermées tous les soirs, mais qui, malgré l'ordre donné, ne le furent pas le soir du massacre de 1912. Tout ce quartier est muet, abandonné. Dans cette ville grouillante, personne ne semble plus vivre. Nous savons que, tout près, la vie tumultueuse des souks bouillonne et déborde, mais autour de nous, le silence est si complet que le balèque, jeté par notre guide au tournant des ruelles, se répercute longuement sous les voûtes du palais. Nous dégringolons toujours vers le fond de l'étrange cratère de Fès el-Bali. Mais pouvons-nous descendre plus bas encore? La dernière ruelle, que nous voyons au-delà du tunnel dans lequel nous nous sommes engagés, paraît vraiment trop étroite pour laisser passer nos montures. Et puis, tout au fond, elle est barrée par un mur. Nous avons l'impression d'être entrés dans un cul-de-sac au-delà duquel on ne peut pas passer. Mais qu'importe, puisqu'enfin notre guide s'arrête et que voici quelques serviteurs qui se lèvent des bancs en pierre appuyés contre la muraille d'un palais. On prend mon étrier et je saute à terre. Sur le seuil, un tout jeune homme au visage doux et intelligent s'avance parmi les serviteurs. Il nous tend la main et, dans un excellent français, nous souhaite poliment la bienvenue. C'est un des fils cadets de la maison dont l'éducation a été faite en Algérie. Nous le suivons à travers le couloir lambrissé de faïence qui se retourne en angle aigu, cachant du dehors l'intérieur de l'habitation. Et nous nous trouvons dans un patio au clair d'allage céramique au milieu duquel gazouille et sautille l'inévitable fontaine. Nous sommes chez un haut fonctionnaire du Marzen. Sortant d'un appartement qui donne sur le patio, il fait quelques pas vers nous et nous accueille en souriant. C'est un homme grand, déjà âgé, d'un fort embonpoint, noblement drapé et enturbanné de gazes blanches et souples. Nous prenons place sur les divans qui entourent la pièce, une longue salle étroite qui n'a d'autres meubles que des divans et quelques tapis de rabat. De l'autre côté de la cour se trouve un arc correspondant à celui qui donne accès à cette pièce. Un rideau en cotonnade blanche est suspendu dans l'ouverture de cet arc et quelquefois un coin de ce rideau est soulevé et des enfants pâles et joufflus aux grands yeux curieux nous regardent et disparaissent tirés en arrière par des mains de femmes. Puis on entend des rires étouffés derrière le rideau dont une dégraisse en montrant ses belles dents vient vite rajuster les plis dérangés. Il y en a trois de ces négresses, toutes grasses, alertes, remuantes, habillées de djellaba blanche sur des caftans de couleur vive, le châle rayé noué autour des hanches et dessinant les courbes rebondies du ventre et des cuisses. Coiffées de fichus multicolores, avec de grands anneaux d'argent aux oreilles, les poignets cerclés de lourds bracelets du Mela, elles vont et viennent, agitées, affairées, dérangeant les vieillards somnolents, serviteurs ou clients, qui se tiennent accroupis près de la porte d'entrée, bousculant les jeunes domestiques, cherchant de l'eau, apportant un gros paquet de menthe fraîche, disparaissant derrière le rideau mystérieux, comme pour prendre les ordres de la maîtresse de maison invisible, puis reparaissant avec un plateau de cuivre, un samovar, une théière, qu'elle remporte ensuite, on ne sait où ni pourquoi. Subitement, tout à fait en haut de la maison à trois étages, penchée sur un balcon vert et projetée sur le ciel comme dans une fresque de Tiepolo, la plus grosse et la plus âgée des trois apparaît, crie des ordres aux deux autres, discute longuement avec elle, puis descend, traverse le patio, affairée et majestueuse, avec un balancement rythmé de son gros corps robuste, et de nouveau disparaît. Sur ces entrefaites, le jeune fils de la maison m'apprend que son père désire me présenter aux dames de la famille. Je suis le jeune homme à travers le patio, le rideau se soulève et je me trouve dans une pièce étroite correspondant exactement à celle que je viens de quitter et où sont assises 6 ou 7 dames arabes avec de nombreux enfants. La maîtresse de maison, une belle Algérienne aux traits fins et fatigués, me reçoit avec grâce et me place à sa droite. Autour d'elle sont ses filles, ses belles filles et leurs enfants. Je me perds un peu dans le dédale des parentés. Toutes sont de jeunes femmes, richement mais sobrement habillées. Leurs visages pâles et ronds, surmontés des diadèmes mis en honneur de ma visite, sont gras, inanimés, comme alourdis par l'inaction et le manque d'air. Mais toutes ont le regard très doux, le sourire accueillant, et un accord parfait semble régner entre elles. La présence des enfants qui se roulent sur le tapis dans leurs petites chemises courtes donne à la scène un air familial et enjoué. Une des jeunes femmes allait un poupon brun et pâle, aux cheveux crépus, et les autres la regardent ravies. Après le premier échange de politesse, la conversation, comme toujours, languit. Certes, j'ai un excellent truchement, mais c'est le fils du maître de la maison. Comment, par son intermédiaire, causer librement avec sa mère, ses sœurs, ses belles-sœurs, des choses puériles ou intimes, qui, seules, ont le pouvoir d'éveiller ces êtres inertes. Et puis, la distance est trop grande entre le libre cerveau de la femme occidentale et ses cerveaux façonnés aux longues dissimulations et aux souplesses d'esclaves. Rien de plus difficile pour une étrangère de passage dans le pays que de soutenir une conversation avec ces êtres engourdis dans la somnolence séculaire du harem. En certains pays musulmans, en Turquie et en Algérie par exemple, les femmes du meilleur monde sortent quelquefois, vont au hammam, échangent des visites, circulent même dans les souks sous la surveillance des eunuques. Pour la grande dame marocaine, entre le mariage et l'enterrement, aucune sortie, sauf au cas d'un déplacement collectif du harem. Et il n'y a que quelques très grands seigneurs qui transportent ainsi leurs gynécées d'une ville à une autre. En général, les femmes restent étroitement enfermées entre les murs du vieux palais croulant, où, toutes jeunes, on les amena au maître, et aucune nouvelle de la vie extérieure ne leur arrive, sauf les potins rapportés par les négresses et les esclaves de basse condition, qui, elles, circulent dans la ville. Dans le milieu aimable et familial où je me trouve, je sens bientôt l'étouffante atmosphère de la prison. Ces femmes me regardent avec de douces prunelles vides, à peine traversées par une vague lueur de curiosité bientôt éteinte. On a le sentiment qu'elles sont trop ignorantes pour que leur imagination soit effleurée par l'idée de l'inconnu. Placides bêtes ruminantes, elles ne devinent rien au-delà de l'enclos où elles paissent. Sans doute, le maître se rend compte de la difficulté que j'éprouve à soutenir une conversation avec son doux troupeau, ou bien craint-il au contraire les confidences indésirables? On dit beaucoup qu'au Maroc, les grands seigneurs n'encouragent pas les visites des voyageuses occidentales. En tout cas, une esclave m'annonce que le thé est préparé dans la pièce que je viens de quitter. Je fais mes adieux aux dames du harem et aux enfants drôles et palots, et le fils me reconduit à travers le patio. En mon absence, je m'aperçois que chez ces messieurs également, la conversation a langui. L'ami qui m'accompagne est habitué à ces sortes de cérémonies, mais lui aussi a subi l'effet de l'ambiance arabe et le sourire de circonstance est figé sur ses lèvres. Le vieux magistrat sourit aussi de toutes ces fines rides astucieuses. Majestueusement accroupi, dandinant doucement sa noble corpulence, il attend en silence les interminables préparatifs du thé. À travers le patio, il y a le même va-et-vient des trois négresses affolées, le même ahurissement des clients qu'elles dérangent et bousculent. On dirait que ce rite quotidien est un événement inouï. Pour nous distraire, on décroche la cage d'une belle colombe grise suspendue sous l'arcade et on me la porte. La colombe roucoule paisiblement. Son œil fixe et doux a le même regard que celui des dames d'en face. On l'emporte et, au même moment, les esclaves s'écartent respectueusement de la porte d'entrée et un homme d'une trentaine d'années, d'un port noble et élégant, s'approche de nous. Penchant sa fine tête au très grave, il baise l'épaule du vieux seigneur, puis il nous salue. C'est le fils aîné, le mari d'une ou deux des petites femmes pâles. C'est lui qu'on attendait pour faire le thé. Avec la gravité que comporte ce rite, il s'accroupit dans un coin du patio, on place le plateau et la théière devant lui, et le va-et-vient des négresses recommence. Soudain, nouvelle fusée de rire derrière le rideau. Un petit garçon s'est échappé et court vers nous. Il n'a sur son petit corps gras et brun qu'une courte chemise en toile écrue et une amulette suspendue autour du cou. Le vieillard, les bras tendus, se penche vers lui, ravi. C'est son dernier-né, le plus jeune frère de l'homme majestueux qui prépare le thé. Ensuite arrivent, escortés par leurs esclaves, deux charmants garçons aux beaux yeux fendus qui reviennent de l'école coranique. Encore deux fils cadets du maître. Tous ces jeunes gens se sourient, s'embrassent et caressent tendrement le petit bonhomme gambadant. Et voici, finalement, dans de pauvres verres posés dans des moulures de métal, le thé à la menthe, fumant et sucré, et les petits croissants aux amandes saupoudrés de sucre. À moitié assoupis, nous dégustons en silence le repas que l'on a mis si longtemps à préparer, et la nuit tombe sur Fès, lorsqu'enfin nous remontons les rues escarpées vers notre palais.